Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Elle nous accompagne tout au long de notre vie. Nous entretenons un dialogue permanent avec elle, notre petite voix intérieure qui peut parfois ressembler à un monologue intérieur dans un roman de Virginia Woolf. En ce moment, la mienne me dit « Ne t'inquiète pas, tu vas faire une bonne émission ». Cette petite voix est une alliée pour nous motiver, nous encourager, nous freiner, nous consoler, réguler nos émotions, organiser notre pensée, se projeter, commenter le film de notre vie. Nous verrons ce matin comment fonctionne cette petite voix intérieure que l'on a parfois envie de faire taire quand elle nous fait ruminer. D'où vient cette voix et pourquoi est-elle si importante, cette petite voix essentielle à notre vie intérieure, à ne pas négliger pour assurer notre bien-être. Nous verrons également ce qui différencie cette petite voix au fait d'entendre des voix. Nous attendons vos questions au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter, une émission avec la complicité du mensuel Ça m'intéresse. Bonjour Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle.
Bonjour Ali.
Elle vous dit quoi en ce moment, votre petite voix intérieure ?
Oh, moi j'adore soliloquer. Et alors si je vous dis, pas simplement quand je me rase, ça c'est de la bonne grosse voix intérieure.
À tout à l'heure. Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Notre psychiatre favori, quel est le menu de vos choses vues ?
Eh bien nous parlerons de prison, d'hallucination, d'intuition et de raison, en plus des voix intérieures.
Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Qu'est-ce qu'il est collant ce type? Je dis rien parce que je veux pas faire de scandale, mais alors, quel pot de colle! Il se fait des idées ou quoi? J'ai accepté cette série de slow avec lui pour pas faire tapisserie devant les copines, mais alors, j'en vois plus le bout.
Mine de rien, je suis en train d'emballer, moi. J'emballe sec. Allez, vas-y, genoux. Attaque, attaque. Ça marche. Accroche-toi, Jeannot. La nuit est à nous.
Ça n'en finit pas. Qu'est-ce que je regrette d'avoir dit oui à ce type. En plus, il s'est aspergé d'eau de toilette. Mon Dieu. Je sais pas ce que c'est que cette eau de toilette, mais alors, drôlement incommodant.
Les voix intérieures de Guy Bedos et de Sophie Daumier. Bonjour Hélène Lovenbruck, bienvenue.
Bonjour Ali.
Vous êtes linguiste, diplômée en sciences cognitives, chercheuse au CNRS au sein du laboratoire de psychologie et neurocognition à l'université Grenoble-Alpes. Et vous êtes l'une des meilleures spécialistes du sujet en France. Vous vous intéressez au langage et à la parole intérieure. Bonjour Isabelle Sorrente.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Vous êtes écrivaine, chroniqueuse dans Par Jupiter sur France Inter et dans Philosophie Magazine. Et on peut lire avec beaucoup de profit votre complexe de la sorcière, publié en poche chez Folio. Bonjour Caroline Pénaud.
Bonjour Ali.
Vous êtes chef de service environnement et psychologie au mensuel Ça m'intéresse. Alors Hélène Lovenbruck, c'est quoi exactement cette petite voix intérieure qui nous accompagne, ce discours intérieur silencieux ?
Bah c'est le fait de se parler dans sa tête. Alors pour essayer de le comprendre pour les personnes pour qui c'est obscur, on peut faire une petite expérience. En fait, vous pouvez essayer de répéter dans votre tête plusieurs fois, le plus vite possible, 16 chaises sèches.
Mmh, on est en train de le faire.
Et quand vous faites ça, peut-être que vous allez entendre que vous faites des lapsus, des échanges entre les sons, comme on fait à voix haute. Et donc ça nous indique que quand on parle dans sa tête, en fait, c'est comme de la parole à voix haute, mais simulée, planifiée. Et c'est ça le phénomène de la parole intérieure. Et alors après, ce phénomène, on va l'utiliser, et il va nous servir à plein de choses, dont vous avez déjà un petit peu parlé. Est-ce que j'en parle maintenant ?
Oui, allez-y.
Il nous sert dans la mémoire déjà, dans la mémoire de travail. Quand vous voulez vous rappeler d'un numéro de téléphone ou d'un code, vous allez vous le répéter en boucle dans votre tête et ça vous aide à vous en souvenir. Quand vous comptez, peut-être que vous faites des opérations mentales dans votre tête en parlant. Ou bien donc pour raisonner, pour résoudre des problèmes, pour prendre des décisions, on va avoir des dialogues mentaux, prendre différentes positions et puis les évaluer, peser le pour et le contre en se parlant dans sa tête. Et puis ça sert aussi à renforcer sa mémoire autobiographique, pour se rappeler, se remémorer des souvenirs. On parle dans sa tête et puis ça nous inscrit un peu notre mémoire.
Et ouais. On passe combien de temps par jour à soliloquer
Alors, c'est très dépendant d'une personne à l'autre. En fait, il y a un chercheur américain qui a fait des entretiens avec des personnes pendant des années. Il leur faisait porter un bip, en fait, dans leur poche. Et le bip sonnait de façon aléatoire dans la journée. Et dès que le bip sonnait, ils devaient dire ce qui se passait dans leur tête. Et alors, il y a des personnes, à chaque fois que le bip sonnait, elles parlaient dans leur tête. D'autres, il y avait plutôt des images, des sensations, mais il n'y avait pas forcément de paroles dans la tête. Donc, en gros, on estime qu'en moyenne, on parle dans sa tête un quart de notre vie éveillée, mais c'est très, très variable. Il y a des personnes, c'est jamais, puis d'autres, c'est tout le temps.
Hélène Löwenbrück, si je vous comprends bien, le soliloque, le monologue intérieur, ne passe pas forcément par la parole. Ça peut également s'appuyer sur des images.
Tout à fait, oui. La vie intérieure, elle est très diverse, en fait. Donc, chez beaucoup de personnes, ça passe par le langage. On verra que même ce langage, il peut prendre différentes formes. Il n'est pas toujours sonore. Et puis, chez d'autres personnes, la vie intérieure, elle est plutôt faite d'images ou de symboles abstraits qu'on ne sait pas très bien décrire. Einstein, par exemple, a très bien décrit le fait qu'il pensait, il avait évidemment une pensée quand même assez sophistiquée et élaborée, Einstein, et il pensait pas en mots. Il pensait avec des images abstraites qu'il ensuite traduisait en mots pour les autres.
Autour de la table, qui a un monologue intérieur en image, Isabelle Sorrente.
Ah ouais, c'est marrant. J'ai pensé en écoutant le début de l'intervention. Je m'étais même dit une fois, moi, c'est des images poétiques. En fait, elles sont pas abstraites et qui d'ailleurs souvent servent de base à mes romans ou alors vont m'alerter de quelque chose. Par exemple, je peux me trouver dans une situation que je juge pas triste ou mauvaise. J'en sais rien en voyage et tout d'un coup, je vais avoir une image genre d'un chien noir ou de quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte que ces images, elles vont à la vitesse de la lumière, elles vont plus vite que la pensée qui va à la vitesse du son, je pense, dans la tête. Et un jour, je m'étais comme ça rendu compte que ces images étaient en fait très rapides. Donc, elles sont à un autre niveau, et pour moi, très fréquentes, très poétiques. Et j'ai même j'ai le souvenir d'une retraite, en fait, d'une retraite zen, où une de mes premières retraites, où j'avais le moment de jeter les pensées, c'était sans problème pour moi. Par contre, il y a eu un moment où je suis descendue à l'étage image. Et elles étaient tellement poétique, elle m'évoquait tellement de romans possibles que j'ai beaucoup de mal à aussi les lâcher pour accéder à, le sous-sol suivant. Et donc, oui, pour moi, en tout cas, ça s'exprime par image plus.
Caroline Pénaud, dans Ça m'intéresse, vous nous proposez un test. Comment vous parlez-vous ? On peut peut-être le partager, ce test.
Oui, en fait, c'est des exercices qui sont proposés par Hélène Löwenbrück pendant ses conférences, qu'on a pompé avec son autorisation. Donc, elle pourra sans doute en parler mieux que moi. Mais il y en a un, moi, qui m'a beaucoup amusée. C'est si vous pensez au son O en arrondissant la bouche, comme si vous alliez le prononcer, et qu'ensuite vous pensez au son M, et ben en fait, imperceptiblement, les lèvres vont se resserrer. Et alors que vous ne prononcez pas vraiment, mais il y a quand même un mouvement. Si vous le faites, vous allez le sentir, et ça montre qu'effectivement, comme disait Madame Löwenbrück, cette pensée est verbalisée. Et il y a eu des mesures qui ont été faites dans son labo, et donc je vais la laisser continuer parce que ça, je pense qu'elle en parlera beaucoup mieux pour montrer qu'il y a des mouvements des lèvres en fait.
Hélène Löwenbrück.
Oui, merci Caroline d'avoir partagé cette expérience. Donc c'est une expérience introspective qui nous indique que le système moteur, le visage, les muscles du visage sont impliqués parfois quand on parle dans sa tête. Et donc en effet, on a pu mettre des capteurs électromyographiques qui mesurent l'activité des muscles des lèvres chez des participants, puis on leur a demandé de prononcer des phrases dans leur tête, et on s'aperçoit que il y a une légère contraction, une légère activité dans les muscles des lèvres pendant qu'on prononce des phrases dans sa tête. C'est pas toujours le cas, mais ça arrive, et donc ça nous indique que cette parole intérieure, c'est une simulation de la parole à voix haute, une simulation du processus de parler, d'articuler, donc de bouger les lèvres.
Une question très intéressante, quelle est la voix de cette petite voix intérieure ? Est-ce que c'est notre propre voix ? Est-ce que cette voix peut être celle d'une connaissance, d'un proche ou bien d'une célébrité ? Je pense à Fabrice Luchini ou bien, je sais pas, moi Jacques Chirac et Hélène Löwenbrück.
Alors oui, ça c'est intéressant aussi. C'est alors quand on se parle à soi-même, ça, quand on fait des entretiens et qu'on demande aux personnes de dire à quoi ressemble la voix quand elles se parlent, quand elles font ce qu'on appelle de l'endophasie. Je remets ce terme à la mode parce que il a été inventé par un médecin français, Georges Saint-Paul, en 1892, et on a complètement oublié ce terme alors que c'est un très beau terme.
Repréciser ce qu'est l'endophasie.
L'endophasie, c'est le langage à l'intérieur de soi. Mmh. Endophasie. Et donc cette endophasie, elle prend plein de formes. Chez certaines personnes, elles disent très clairement, oui, c'est ma voix. Tout à l'heure, on a entendu Laetitia Gaillet qui disait, moi, ma voix, c'est une voix grave. Chez d'autres personnes, ça va être une voix aiguë. D'autres disent, bon, je le connais pas, c'est une voix neutre. Et puis, certaines personnes imaginent, en effet, quand elles se parlent, différentes voix. Et alors, en fait, ça va dépendre de la situation. Donc, quand elles sont en train de se motiver, elles vont avoir la voix d'un coach. Quand elles sont en train de se rassurer, ça va être une voix douce d'un ange gardien. Donc, cette voix, elle est multiforme. Elle dépend vraiment des personnes. On peut faire l'exercice aussi, par exemple, dont vous avez parlé de la voix de Lucchini, mais on peut imaginer des voix un peu plus célèbres, par exemple la voix de Dark Vador. On peut l'imaginer dans sa tête, et enfin les personnes qui peuvent le faire peuvent,
un peu plus inquiétant.
Voilà, et on a ce souffle inquiétant de la voix de Dark Vador. Donc on est capable en fait d'imaginer la voix d'autrui. C'est ça qui est intéressant. Puis on reviendra sur ça quand on parlera des voix, les personnes qui entendent des voix. Le fait d'entendre des voix, ça vient du fait qu'aussi on est capable nous-mêmes d'imaginer des conversations, d'imaginer des dialogues et d'imaginer les voix d'autres personnes.
Isabelle Sorrent, à quoi ressemble votre petite voix intérieure, vos petites voix intérieures?
En fait, moi je pense, sans jouer sur les mots entendre des voix, mais je pense qu'il y en a plusieurs. C'est effectivement, moi je crois que suivant les cas, par exemple, si je suis dans la nature ou au contact d'animaux, on va dire c'est un certain type de monologue intérieur, d'image ou de voix. Et si par exemple je pense à mes parents qui sont décédés ou à des choses, c'est leur voix à eux. Donc je crois que en réalité on se rassure en disant on a une voix intérieure parce que ça nous fait penser normaux. On a l'impression que c'est moi qui parle à moi. Mais je crois qu'on en a effectivement plusieurs et que notre identité n'est pas ce qu'on croit. Que c'est une espèce de théâtre ou de choses beaucoup plus vibrantes, beaucoup plus rattachées par des liens invisibles aux autres et même à des inconnus. Ça, c'est moi, c'est évidemment, je pense tout de suite à la lecture ou à l'écriture. Quand on lit, on a la voix de l'autre. Et je me suis justement, comme moi, je m'étais toujours posé des questions entre cette voix image et la voix son. Je me dis, la lecture, c'est à mi-chemin. Ça va un peu plus vite que la pure pensée sonore. Mais ça va moins vite qu'une pure image. Et on est en dialogue avec des morts ou des inconnus. Donc je pense qu'en fait ces voix sont multiples, même si c'est moins rassurant de le dire comme ça, mais je crois que c'est vrai.
Hélène Löwenbrück, schématiquement, il existe deux types de dialogue intérieur. L'un est délibéré et l'autre est plus spontané, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs types de variations hein, de l'endophasie, du langage intérieur, mais un des axes de variation, c'est en effet l'intentionnalité. Donc on a des moments où on a de la parole intérieure qui est délibérée, donc c'est ce qu'on fait quand on décide par exemple de retenir un numéro de téléphone, quand on décide de compter dans sa tête.
Ou quand on se dit, il faut que j'aille chez le dentiste ou chez le médecin, il faut que j'aille acheter le pain.
Voilà, ces petits moments-là où on réfléchit, tiens, dans ma valise, je vais mettre, et puis on fait la liste des affaires qu'on va mettre dans sa valise. Donc là, on l'a décidé vraiment. Et puis il y a d'autres moments, quand on est dans ce qu'on appelle le vagabondage mental, dont vous avez parlé dans votre émission hier, ces moments-là où notre attention flotte un petit peu, on va avoir de la parole intérieure qui n'est pas délibérée, qui n'est pas intentionnelle, qui survient de façon un peu à l'improviste, inattendue. Et cette petite voix-là intérieure, elle est très intéressante, parce que pour l'instant, on comprend pas très bien comment elle survient, en fait. C'est plutôt que il semblerait qu'on ait une sorte de bouillonnement permanent de pensée et de parole, et puis de temps, on focalise notre attention et puis c'est à ces moments-là qu'on prend conscience en fait de notre parole intérieure. Mais elle est intéressante parce que c'est dans ces moments-là qu'elle est la plus créative et elle nous fait parfois réaliser certaines choses auxquelles on faisait moins attention peut-être.
Hélène Löwenbrück, que se passe-t-il dans notre cerveau pendant ce discours intérieur? Ce sont les mêmes zones qui sont activées que lorsque nous parlons à voix haute, c'est les mêmes aires cérébrales?
Oui, alors ça c'est intéressant. Donc avant on avait que l'introspection pour comprendre la parole intérieure. Maintenant on a de quoi la mesurer. Donc on a vu que on peut faire des tests psychologiques, donc faire des vire-langues et se rendre compte que dans sa tête on fait des échanges. On a vu qu'on peut faire ce test d'imaginer prononcer des sons puis qu'on a des contractions dans les lèvres. Et puis ça on peut les mesurer avec des capteurs électromyographiques. Et puis on peut faire aussi maintenant de la neuroimagerie, c'est-à-dire regarder l'activité du cerveau pendant qu'une personne parle dans sa tête. Et là ce qu'on observe c'est que ce sont les mêmes régions qui sont activées, les mêmes réseaux neuronaux qui sont activés dans la parole intérieure que dans la parole à voix haute, c'est-à-dire la région de Broca, les aires auditives, mais que en plus, quand on parle dans sa tête, on a des régions de l'inhibition, c'est-à-dire qu'on va s'empêcher de parler. Et donc on va empêcher l'activité des muscles et les mouvements articulatoires. Mais sinon, le réseau activé est effectivement celui de la parole à voix haute. Donc ça nous indique vraiment qu'il y a une similarité entre parole intérieure et parole à voix haute, même au niveau neuronal.
Question de Marie-Laure Zonschein, de Femme Actuelle.
Oui, concernant le vagabondage mental, le voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a finalement des prédispositions, des moments favorables pour qu'ils surviennent? On est seul, on se promène, on écoute de la musique. Moi, par exemple, c'est typiquement le cas. Je suis dans ma voiture, il y a Queen en fond, Freddie Mercury qui chante. Ça déclenche forcément quelque chose en moi. Est-ce qu'effectivement, il y a des moments, des prédispositions pour que notre voix intérieure survienne, se déclenche?
Hélène Levenbruck.
Oui, tout à fait, vous avez raison. Donc il y a des moments propices. Donc quand on est seul, quand on est en voyage, quand on est dans le bus, quand on est dans les transports, quand on fait du vélo, quand on marche, on a ces moments de flottement et le vagabondage mental est très très apparent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il survient aussi même dans des moments où on est concentré. On peut être en train de faire une tâche et puis en fait on lâche l'attention et on se met à vagabonder sans l'avoir décidé. Donc ce vagabondage, il est en fait ce réseau, c'est ce qu'on appelle le réseau par défaut. Hein. Notre cerveau, il a ce réseau par défaut qui est en alternance avec le réseau qui est occupé à faire des tâches. Et puis de temps en temps, il prend le dessus sur la tâche en cours. Donc c'est encore assez mystérieux de comprendre cette alternance entre réseau par défaut et réseau des tâches, des occupations. Mais donc on a ces moments propices au vagabondage et au réseau par défaut, qui sont les moments peut-être de solitude où on est moins tracassé par les stimulations externes.
Christophe André.
Oui, c'est passionnant ces recherches qui sont faites sur le réseau par défaut et donc le vagabondage mental, parce que loin d'être une sorte de dispersion, de perte d'énergie psychologique, c'est vraiment une fonction cérébrale précieuse qui semble impliquer, effectivement, Hélène Levenbruck le rappelait, dans nos capacités de créativité, d'intelligence sociale, relationnelle, de mémoire autobiographique. Et le grand drame en termes d'écologie mentale aujourd'hui, ce sont les écrans. Puisque dès que nous avons des instants où nous pourrions laisser notre cerveau vagabonder et donc faire fonctionner ce fameux réseau par défaut si précieux, eh bien nous portons notre attention sur des informations, des distractions. Nous fixons notre attention sur quelque chose qui n'est pas fondamental à notre équilibre, au lieu de laisser un petit peu notre cerveau respirer et vagabonder comme décrit.
J'avais un ami qui s'appelait Alexandre. J'étais dans un parc avec lui, mais aussi d'autres amis. Et là, j'entends sa voix, mais qui m'insulte de tous les noms, avec une force et une méchanceté incroyables. Et j'ai, du tac au tac, répondu avec la même virulence. Et là, je vois l'intégralité de mes amis qui se retournent vers moi et me disent « Mais Vincent, qu'est-ce qu'il prend? Pourquoi tu lui parles comme ça? Il t'a rien fait. » Et j'avais été tellement agressif que la conversation a eu du mal à reprendre entre mes amis. Et à un moment, alors que la conversation commençait à reprendre entre eux, j'entends à nouveau mon ami qui m'insulte de tous les noms. Un détail près, c'est que là, j'arrêtais pas de l'observer et j'ai vu que ses lèvres ne bougeaient absolument pas. Et c'est là où la peur est arrivée, où je me dis, mais je suis fou ou quoi. Déjà à l'époque, je me dis, mais si j'en parle, les gens vont penser ça de moi. Et du coup, je suis resté dans un mutisme.
Et nous venons d'entendre Vincent Demassier, président du réseau français sur l'entente de voix. Entendre des voix peut être vu comme un symptôme de trouble de la personnalité. Caroline Pénaud, entre 3 et 5% de la population générale sans trouble psychologique entend des voix.
Oui, c'est à peu près les estimations. Et c'est vrai que longtemps, on a cru que c'était seulement un symptôme de la schizophrénie, ce qui a entraîné des faux diagnostics parfois, alors qu'effectivement, on peut avoir ce genre d'hallucinations sans troubles psychologiques. Et on peut certes les traiter par des médicaments, par des thérapies, etc. Mais il y a aussi, vous citiez le réseau d'entendre des voix, il y a aussi des groupes de parole où en fait ces personnes-là parlent entre elles pour essayer d'apprivoiser leurs voix, les connaître, savoir un petit peu, parce qu'il y a des voix positives, des voix négatives. Chez les entendeurs de voix, il y a la moitié positive, la moitié négative. Alors que chez les schizophrènes, c'est 90% de négatif. Donc, ça peut être des voix bienveillantes. Donc, l'idée, c'est de les apprivoiser, d'apprendre à vivre avec, et pas forcément d'essayer de les éliminer.
Et Christophe André, ce type d'hallucination auditive peut apparaître après un traumatisme, une agression, un deuil?
Oui. Mais alors ça, vraiment, c'est quelque chose sur quoi on est en train de se pencher. Moi, j'avais plusieurs patients que je suivais qui avaient des voix et qui n'étaient pas schizophrènes, qui étaient parfaitement adaptés, qui avaient une vie familiale, une vie professionnelle, mais que ces voix déstabilisaient profondément. Et c'est assez tardivement qu'on s'est aperçu qu'on pouvait les traiter, les aider, sans leur donner des neuroleptiques, comme s'il s'agissait de délire.
Comment on les traite?
Eh bien, on leur apprend à considérer les moments, par exemple. On leur apprend à considérer. Je dirais que ces voix sont au fond une sorte de symptôme de stress, et très souvent c'est le cas. En général, on a ces voix lorsqu'on est plutôt fatigué, stressé, préoccupé, en tout cas en ce qui concerne les voix négatives, et donc on leur apprend à les repérer comme une sorte de petit effet indésirable ou latéral de leur fonctionnement cérébral. On leur explique qu'il y a des raisons neuroanatomiques, que finalement lorsque c'est normal d'entendre se parler à soi-même, d'entendre des voix, mais c'est pas normal de considérer que ces voix viennent de l'extérieur, que là il y a peut-être un petit souci et qu'il y a des raisons anatomiques, neuroanatomiques. C'est l'air de Broca, par exemple, l'air qui est consacré au langage parlé, n'arrive pas à inhiber chez ces personnes très probablement l'air de Wernicke, qui est l'air qui est dédié au langage entendu et compris.
Et à quel moment peut-on faire le diagnostic de schizophrénie?
Ah, eh bien là, le diagnostic de schizophrénie, d'abord, c'est qu'il n'y a pas que des voix intérieures. Il y a des perturbations très fortes au point de vue émotionnel. Il y a des crises d'angoisse très fortes. Il y a aussi des troubles du comportement. C'était un peu ce qui était évoqué dans le témoignage, à part qu'après le premier réflexe d'avoir cru entendre son ami l'insulter, il s'est défendu. Puis après, il a compris que le problème venait de lui. Donc, on a les gros troubles émotionnels, des gros troubles du comportement. Et puis, les voix sont considérées comme des réalité venant de l'extérieur. Les patients schizophrènes ont du mal à comprendre que c'est eux qui émettent, sans doute, on ne peut pas être à l'intérieur de leur cerveau, mais ses propres voix.
Hélène Levenbruck.
Oui, je voulais vous remercier d'avoir nous avoir fait écouter ce témoignage de Vincent qui a beaucoup aidé à faire comprendre ce phénomène de l'entente des voix chez les personnes non nécessairement psychiatriques, et donc rappeler en fait que ce phénomène il arrive parce que nous avons cette capacité exceptionnelle de pouvoir simuler les voix d'autres personnes qui nous aident, hein, cette capacité, le fait d'avoir des dialogues mentaux, d'imaginer ce que les autres peuvent dire et peuvent nous dire, ça va nous aider au quotidien pour avoir des relations sociales. Donc ce mécanisme qui est essentiel à notre humanité, ben parfois il peut dérailler, et en effet on a cette désynchronisation entre les informations qui viennent des régions frontales vers les régions temporales du cerveau, qui va faire que on n'a plus la sensation d'être l'auteur de la voix qu'on a fabriquée. Et donc dans ces moments-là, en effet, ça peut être vécu comme un trouble dans nos sociétés dans lesquelles entendre des voix, ça n'est pas quelque chose de typique. Mais il existe d'autres sociétés dans lesquelles, au contraire, c'est bien vécu, et le fait d'entendre une voix, c'est une qualité et c'est la preuve d'être un être supérieur, un être spirituellement supérieur. Donc il y a des sociétés dans lesquelles ces voix, elles sont accueillies au contraire, et ce petit dysfonctionnement ou cette petite particularité de fonctionnement du cerveau, elle est accueillie comme étant quelque chose d'exceptionnellement positif. Et donc nous on a fait des mesures en fait chez des personnes schizophrènes qui avaient, enfin des personnes atteintes de schizophrénie qui entendaient des voix et chez qui on a proposé de placer des capteurs électromyographiques donc sur les muscles des lèvres. Donc c'était dans le cadre de la thèse de Lucille Rapin, et elle a pu montrer qu'en effet pendant l'entente de voix il y avait une activité dans les muscles des lèvres. Donc ces voix elles sont en effet bien auto-générées, mais elles sont perçues comme venant de l'extérieur. C'est ça encore le mystère à comprendre, c'est comment se fait cette désynchronisation des signaux dans le cerveau qui fait qu'on perçoit la voix comme venant de l'extérieur.
Alors Jean-Philippe vous demande si l'intuition a un lien avec notre petite voix intérieure. Eh bien, vous lui répondrez juste après avoir écouté Alain Souchon qui interprète Le Baiser.
Je chante un baiser, je chante un baiser osé sur mes lèvres déposées par une inconnue que j'ai croisée. Je chante un baiser marchant dans la brume, le cœur démoli par une, sur le chemin des dunes, la plage de Malobré d'une, la mer du Nord en hiver sortait ses éléphants gris verts, des adamos passaient bien couverts, donnant à la plage son caractère naïf et sincère. Le vent de Belgique transportait de la musique, des flonflons à la française, des fanzifères à la fraise. Elle s'est avancée, rien n'avait été organisé. Autour de moi, elle a mis ses bras croisés et ses yeux se sont fermés, fermés. Jugez ma fortune sous l'écharpe, les boucles brunes. C'est vrai qu'en blonde j'ai des lacunes, en blonde j'ai des lacunes. Oh, le grand air, tournez le vent, la dune à l'envers, tournez le ciel et tournez la terre, tournez, tournez le grand air. La Belgique locale envoyait son ambiance musicale, de flonflon à la française, de fancifère à la fraise. Dun, 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 dun. Ta langue amie et dans mon cœur un décalcomanie marqué liberté, liberté chérie. Je donne au départ pour ce moment délicieux hasard Adamo M. Sissola, oh tous les milliards de dollars.
Alain Souchon interprétait le baiser.
Laisse tomber, ils ne me voient pas, ils ne m'entendent pas. Je suis ta conscience, ton ange gardien.
Grand bien vous fasse.
Je suis là pour te montrer le droit chemin. Je suis simplement ta conscience.
Sur France Inter.
10h32 et ce matin, on se demande à quoi sert notre petite voix intérieure. Avec la complicité du mensuel Ça m'intéresse, nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000. Pour ceux qui ont manqué le début, je vous propose d'écouter l'anthropologue et psychologue Victor Rosenthal.
Alors, qu'est-ce que c'est la voix intérieure ? La voix intérieure, c'est à la fois une voix et une parole. C'est une parole qui m'accompagne dans la vie, qui fait que je deviens en quelque sorte deux en un. Puisque lorsque je me parle, il y a une oreille. Et cette oreille peut à tout moment devenir une voix, elle peut me répondre. Donc c'est à la fois un dialogue intime, mais ce n'est pas nécessairement un dialogue. Ça peut être un récit, parce que je peux me raconter, je me raconte ce qui m'arrive. Je me raconte ma vie, je me projette dans l'avenir en racontant ce qui m'arrivera. Et en me parlant, je crée une forme d'intimité. C'est une façon de me retirer du cours du monde, ce qu'on va appeler l'intériorité psychique.
L'anthropologue et psychologue Victor Rosenthal. Alors, nous allons répondre à la question de Jean-Philippe qui se demande si l'intuition a un lien avec notre petite voix intérieure. Et ça tombe sur vous, Hélène Levenbruck, l'une des plus grandes spécialistes de la parole intérieure dans notre pays.
Non, je suis pas la poule. Non, je réfute ce terme. Mais oui, c'est une très bonne question en fait. C'est alors l'intuition, elle serait peut-être dans nos théories actuelles, hein, elle serait une sorte d'amorce de la parole intérieure. En fait, donc on a parlé de la dimension de délibéré, non délibéré de la parole intérieure. Il y a une autre dimension qui est celle de la condensation. Mmh. Donc on a des formes de parole intérieure qui sont très condensées, qui sont encore des prémices de parole intérieure, qui sont pas encore complètement un déroulé. Et puis on a des paroles intérieures qui sont des phrases entières, là ce qu'on disait tout à l'heure, allez tu vas y arriver, donc là c'est bien prononcé avec tous les mots dans le bon ordre, mais avant le allez tu vas y arriver, il y a une petite intuition, il y a une petite une petite idée, un petit concept qui est parfois quand même déjà sous une forme verbale, parce que les personnes bilingues peuvent dire oui, je l'ai pensé en anglais, ou je l'ai pensé en français, ou je l'ai pensé en russe. Donc c'est déjà un peu du langage, mais ça n'est pas encore du langage sous sa forme la plus développée, la plus déroulée, la plus étendue, on va dire. Dans sa syntaxe, dans son lexique, dans ses sons, voilà. Et donc ça, cette notion d'intuition qui est là au préalable, un peu en sous-tendu, et qui va ensuite se dérouler et former la parole intérieure sous sa forme la plus déployée. Ce qui est intéressant, c'est que elle semble être la forme utilisée chez les personnes qui ont ce qu'on appelle une aphantasie. Mm-hmm. Alors, je sais pas si on peut parler de la fantasie.
Allez-y en quelques mots.
La fantaisie, c'est un phénomène qui a été en fait décrit déjà depuis le début du XXe siècle, mais auquel les recherches ne s'intéressent que depuis 2015, parce que enfin il y a un mot pour le décrire. C'est le fait que certaines personnes ne voient pas d'image dans leur tête, n'entendent pas de son dans leur tête, n'ont pas de goût dans leur tête. Donc par exemple, moi, si je vous dis est-ce que vous pouvez imaginer votre chambre, vous pouvez imaginer les objets dans votre chambre. Je vous dis imaginez l'odeur du café, vous avez immédiatement l'odeur du café. Mais c'est chez cette personne-là, il n'y a pas de sensation ni auditive ni visuelle dans la tête. Et alors c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier à Grenoble en ce moment au LPNC. Donc on fait une enquête sur ce phénomène pour essayer de mieux comprendre comment se parlent les personnes qui n'ont pas de son dans leur tête. Elle se parle avec une forme de langage qui n'est pas déployée et qui est sous cette forme de l'intuition, de la chose très brève, fugace, très abstraite, très condensée et qui du coup est très rapide.
Alors le LPNC, c'est le laboratoire de psychologie et neurocognition. Et nous accueillons Anne. Bienvenue Anne.
Oui, bonjour.
Quel est votre témoignage sur notre sujet du jour?
Alors voilà, moi depuis que je suis toute petite, je pense dans ma tête comme tout le monde, et de temps en temps, j'ai des voix par ici qui interviennent pour me prévenir de quelque chose. Je vous donne un exemple. Quand ma fille était bébé, je l'ai mis dans le landau, dans le jardin, et puis je suis rentrée dans la maison faire le ménage, je ne sais plus ce que je faisais. Une voix qui m'a coupé mes pensées, mais vraiment, ça me bloque ma pensée, et qui me dit « Enlève-la de là, enlève-la de là, sors-la de là !» Et cette voix m'a harcelée, puis je l'ai envoyée balader, cette voix. Je me suis dit « Arrête de m'embêter, arrête de m'embêter, il n'y avait rien à faire. Ça me coupait mes pensées tout le temps. Enlève-la de là, enlève-la de là. » Bon, j'y vais, je prends le landau, je le mets dans un autre coin du jardin, je reviens, la branche du poirier était tombée exactement à l'endroit où il y avait le landau. Voilà. Et des trucs comme ça, il m'en arrive plein. Je veux dire, une fois, j'ai été rejoindre mon mari à son bureau, je prends ma voiture, j'y vais tout tranquillement, et puis il y a une voix dans ma tête qui me dit « Accident, ne crever, accident, ne crever ». Et j'ai dit « Mais fiche-moi la paix, tu me fais peur, accident, ne crever ». J'arrive au bureau de mon mari, toute contente, je me gare, j'ouvre la porte de son bureau, et à ce moment-là, il y a un grand groupe dans la rue, je dis à mon mari « Ça, c'est ma voiture, je vais voir ». Il y a un type qui me dit « Je suis désolée, madame, mon pneu a crevé, et j'ai pas pu faire autrement que de rentrer dans votre voiture ». Et souvent c'est pour des choses terribles. C'est des fois on dit cette voix, elle me coupe tout. Elle me dit appelle telle personne, à telle personne. Et souvent je n'écoute pas parce que je finis par avoir peur. Et en fait, j'apprends que la personne elle est morte.
Et c'est une forme d'intuition qui rejoint la question de Jean-Philippe tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre témoignage, Anne. Betty nous demande, c'est pour vous Christophe André, pouvez-vous parler de ce que l'on appelle les pensées intrusives? Sont-elles une sorte de voix intérieure? Expliquez-nous ce que sont ces pensées intrusives.
Alors, en psychologie, en psychiatrie, les pensées intrusives, elles se retrouvent par exemple dans les troubles obsessionnels ou dans certaines phobies. C'est souvent, on a par exemple une jeune maman qui a son bébé dans les bras, qui passe près de la fenêtre et tout à coup, elle a une pensée ou une image ou une voix carrément qui lui dit « Et si tu l'as jeté par la fenêtre ?» Alors évidemment, c'est l'horreur pour elle, elle n'a aucunement envie. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une pensée intrusive, qui fait intrusion dans notre esprit, alors que vraiment, il n'y a pas du tout d'explication logique à ce qu'elle arrive. Et ces pensées intrusives, effectivement, ce sont des pensées qu'on appelle égo-distantes. tectoniques. C'est-à-dire, elles sont de travers par rapport à ce qu'on voudrait faire de notre vie. Alors qu'il y a parfois des pensées égo-syntoniques, c'est-à-dire des pensées qui correspondent à notre ressenti. Quand quelqu'un en face de nous nous casse les pieds et qu'on ne lui a pas encore dit, on se dit, bah, quelle emmerdeur. Ça, c'est une pensée égo-syntonique. Par contre, jette ton bébé par la fenêtre, c'est une pensée égo-dystonique. Et souvent, les pensées intrusives sont égo-dystoniques, nous dérangent et nous heurtent.
Sonia nous dit que le plus beau moyen d'écouter la voix intérieure d'une autre personne, c'est la lecture. Qu'en pensez-vous, Isabelle Sorand? Je rappelle que vous êtes écrivaine. Lecture, c'est l'une des plus fabuleuses manières d'accéder au discours intérieur d'une autre personne?
Oui, et c'est aussi une bien sûr, je souscris 100% à cette vérité. Et je pense aussi que c'est une manière de découvrir que notre identité n'est pas un jeu fixe, rigide, avec un petit caillou qui serait quelque part derrière nos yeux et entre nos oreilles. Parce que justement, je fais le lien avec ce que vient de dire Christophe André sur les pensées intrusives. Dans d'autres civilisations, on croyait qu'on parlait aux dieux, qu'il y avait des démons. Et je pense que le fait de se dire qu'on avait une identité simple, rigide, fixe, ça nous a résolu beaucoup de problèmes. Mais si on se dit que tout des formes de récits ou mythologies, c'est aussi une mythologie qui montre parfois ses limites. Par exemple, dans la lecture, on sait tous, bon, moi j'adore Borges et j'adore parler des nouvelles de Borges avec des amis. Eh bien, on peut être sûr que sur la plupart des nouvelles, pas juste une ou deux, on ne va pas être d'accord sur l'interprétation. Et je pense que si Borges était parmi nous, il nous dirait que c'est encore autre chose. Et tous les romanciers font l'expérience, surtout dans la fiction, hein, moins les personnes qui écrivent des essais ou des idées, que des fois les lecteurs ils vont vous dire « Ah, j'ai adoré tel passage », et ils vont vous dire une signification qui n'était pas celle que vous avez mise, mais qui est quand même bonne. Et comme s'il y avait un dialogue, en fait. C'est plus que écouter la voix ou une voix, parce qu'on dit petite voix intérieure pour se rassurer, mais on a bien vu que ce n'est pas toujours si rassurant que ça. Mais c'est aussi sentir, je trouve, que notre identité est quelque chose qui est en résonance avec les autres, et pas juste je, une espèce de truc solide comme un stylo. Et ces moments-là, je les trouve assez vertigineux et magiques.
Alors, qui parle quand on se parle pour s'encourager, quand on se dit « n'aie pas peur, ça va aller, secoue-toi, tu vas y arriver » Hélène Lovenbruck, qui s'encourage dans ces cas-là?
Ça aussi, c'est la troisième dimension importante de la parole intérieure. Donc, on a vu intentionnalité, on a vu aussi la condensation, et maintenant on voit la dialogalité ou la dialogicalité. Donc, c'est le fait que quand on dit monologue, quand on parle dans sa tête, en fait, on est en train de parler à quelqu'un. Donc, on a cette espèce de paradoxe qui est que on énonce des choses pour soi-même. Ça veut dire qu'on les savait pas encore. Et quand on dit je me dis, je dis à qui? À moi. Donc on a une situation un petit peu paradoxale qu'a très bien relevé Gabriel Bergogneau dans Le Moyen de Parler et qu'ont aussi relevé d'autres spécialistes de langage intérieur que sont Gilles Philippe ou Stéphanie Smadja. On a ce problème que on est à la fois je et tu dans la parole intérieure, et on va avoir en fait des situations où on va utiliser plus le je et plus le tu parce que c'est plus approprié. Alors souvent quand on décide des choses, on va utiliser le je fort, ça renforce notre conscience auto-noétique, ça renforce notre conscience de soi. Je suis, je vais faire ça, je décide, je pars. Et puis il y a d'autres moments où pour s'encourager justement, ou pour se consoler, ou pour se calmer, on va utiliser le tu. Allez, ça va aller, tu vas y arriver. Oh, tu sais que tu peux le faire. Et donc on peut avoir ces alternances d'utilisation de pronoms dans le langage intérieur qui nous montrent ce déploiement de la dialogalité, du monologue au dialogue, jusqu'au même aux conversations multiples avec plusieurs personnes. Hein.
Une étude très intéressante, Caroline Penaud de Ça m'intéresse, a été réalisée en 2008 par l'université de Worcester au Royaume-Uni, et ça va intéresser Christophe André.
Oui, c'était une étude qui portait sur les joueurs de rugby. en l'occurrence qui jouaient pas au rugby d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et en fait, on leur demandait de sauter le plus haut possible. Et on leur disait avant, les quelques secondes avant, soit vous vous encouragez en vous intérieur, allez, tu vas y arriver, tu vas sauter très haut, etc. Ou je vais y arriver. Et on peut, ils pouvaient utiliser les deux pronoms. Soit ils réfléchissaient au geste. Alors je plie mes genoux, je me propulse le plus haut, etc. Et c'est ceux qui s'encourageaient qui sautaient le plus haut. Voilà. Et alors c'est vrai que la voix intérieure, ça a été utilisé, ça a été étudié dans beaucoup de sports. Et on remarque effectivement ces auto-encouragements. On voit souvent les joueurs de tennis sur les courts qui ont l'air de se murmurer des choses, etc. Il y a plusieurs études qui ont montré que ça pouvait avoir un effet. Mais aussi, parfois, un petit truc négatif, ça peut avoir de l'effet. Allez, t'es pas trop à la hauteur, etc. Ça a été montré que parfois, si c'est pas trop négatif, ça peut marcher.
Bonjour Olivier, bienvenue.
Bonjour.
Quel est votre témoignage, Olivier? Vous êtes coach de golf, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui. Bien, en fait, je travaille avec beaucoup de jeunes et les jeunes sont en construction. Alors ils apprennent et puis dans le cadre de l'apprentissage, ils font donc beaucoup de compétitions dans mon sport, et c'est un sport un peu particulier parce que c'est une compétition qui dure environ 4 heures et demie et pendant laquelle il va y avoir environ une heure de temps de jeu maximum, comptant la prise de décision et l'action de jeu. Et puis le reste, c'est des temps morts. Et donc je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe un peu dans la tête de mes élèves quand ils jouent, parce que je sais que cette activité intérieure a beaucoup d'influence sur leur prise de décision ou sur leur morale. Donc, on leur demande assez souvent, régulièrement, dans quel état d'esprit ils sont, comment ils sont, etc. Et souvent, ils le traduisent par « là, je me dis que c'est pas possible » ou « là, je me dis que c'est possible » ou etc. Et donc, en fait, on laisse pas les enfants se parler. Alors, ça va même au-delà du sport, hein. Mais on laisse pas les enfants se parler mal, déjà. On les aide à non pas à parler à leur place, mais c'est amusant de voir comment ils arrivent à faire évoluer cette petite voix intérieure en se servant de l'expérience, de nos débriefings, etc. Et lorsqu'ils nous disent, là, tu vois, je me suis dit que j'allais prendre une meilleure décision parce que je me suis rappelé que, etc. Tout ça se passe à l'intérieur. Et de temps en temps, ils nous disent, à un moment donné, je devais décider de faire telle ou telle chose et je t'ai entendu me dire telle chose. Donc de temps en temps, même la voix du coach. Donc il y a une véritable activité à l'intérieur, dans la tête. Et pour nous, en fait, c'est un des facteurs de performance, c'est la partie mentale dans le sport. Et donc on tient compte de ça et on passe du temps à parler avec eux de cette activité mentale, parce qu'elle a une influence directement sur ce qu'ils produisent.
Merci beaucoup Olivier pour votre témoignage ce matin. Il est 10h47, il est temps de retrouver les choses vues de Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Christophe André.
Le 7 septembre 1911, le poète Guillaume Apollinaire est arrêté et conduit à la prison parisienne de la Santé. On le suspecte d'avoir été complice du vol de la Joconde au musée du Louvre quelques jours plus tôt. Apollinaire est innocent et il vit douloureusement son incarcération, comme en témoignent les premiers vers de son poème « À la Santé » qu'il rédigea peu après. « Avant d'entrer dans ma cellule, il a fallu me mettre nu. Et quelle voix sinistre ulule, Guillaume ! Qu'es-tu devenu ? » À cet instant, la honte du pauvre Guillaume s'exprime sous la forme d'une voix intérieure, marquée par la honte plus encore que par la culpabilité, puisque coupable, il ne l'est pas. Ces formes de voix intérieure, claires, distinctes, qui accompagnent nos épreuves ou nos bonheurs, correspondent à ce que décrivait Platon dans son dialogue du Thé et Tête, « Penser, c'est se parler à soi-même. Elles sont alors l'émanation de notre esprit conscient confronté à tel ou tel événement. Il y a aussi parfois des voix qui résonnent à l'intérieur de notre esprit, mais qui semblent ne pas nous appartenir et nous venir de l'extérieur, comme dans les hallucinations auditives. Celles-ci se retrouvent, selon les études, chez 10 à 40% des personnes adultes et chez 5 à 10% d'entre elles de manière régulière. Je me souviens pour ma part d'avoir une fois entendu à mon esprit la voix de mon père, mort depuis plusieurs années, qui me parlait distinctement. Je précise tout de suite que les hallucinations auditives ou les voix intérieures ne sont pas forcément associées à des troubles psychiatriques. Le trouble psy, c'est si on est très stressé par ces voix, si on commence à leur répondre ou à leur obéir. Il y a encore dans ce vaste monde des voix intérieures tout le discours intime que nous nous tenons lorsque nous nous encourageons face à une difficulté. Vas-y, tiens bon, ça va passer. Ou lorsque nous nous félicitons après un succès. Super, bravo, tu t'en es bien sorti. Toutes ces voix sont claires et distinctes. Mais parfois, nos voix intérieures prennent la forme d'un murmure confus. Ce sont alors les voix de l'intuition, des chuchotements discrets, des presque rien qu'il faut se donner la peine d'écouter.
Tu vois, c'est presque rien, c'est tellement peu, c'est comme du verre, c'est à peine mieux. Tu vois, c'est presque rien. C'est comme un rêve, comme un jeu. Des pensées prises dans des perles d'eau claire.
Bien souvent, les voix de l'intuition ne sont pas des paroles, mais des sensations, des ressentis corporels. Elles sont l'expression discrète de l'intelligence de nos émotions. Nous sentons que quelque chose ne va pas, que l'on nous ment, ou que l'on nous manipule, que nous sommes en train de prendre une mauvaise décision. Rien de repérable rationnellement, mais comme une petite voix dans notre ventre ou notre cœur qui nous dit « ça ne va pas, il y a un truc qui cloche dans ce que tu es en train de faire ». Alors, faut-il les écouter, ces petites voix intérieures, ces voix de l'intuition ? Oui, bien sûr, il faut écouter toutes les voix. Faut-il leur obéir ? Pas toujours, car tous les travaux montrent que les murmures de l'intuition ne sont à suivre que dans les situations dont nous avons une longue habitude, une solide expérience. Pour le reste, mieux vaut s'appuyer sur la raison. S'arrêter, réfléchir, discuter avec un proche, peser le pour et le contre. Bref, quitter le monde poétique des voix intérieures et des intimes convictions pour celui de la logique et de la rationalité. Ce monde de la logique et de la rationalité est un peu malmené ces derniers temps, mais c'est une autre histoire. Allez, revenons plutôt à notre bon Guillaume Apollinaire, toujours emprisonné à la santé, et qui tente de se consoler en continuant de se parler à lui-même. Le jour s'en va, voici que brûle une lampe dans la prison. Nous sommes seuls dans ma cellule, belle clarté, chère raison. C'est beau, n'est-ce pas ? Eh bien, ce seront mes vœux aux auditrices et aux auditeurs de France Inter, que la belle clarté et la chère raison soient à leur côté, à nos côtés, durant l'année qui vient. Nous en aurons bien besoin.
Isabelle Sorrente vous a écouté avec beaucoup d'attention.
Oui, je trouve ça très intéressant, l'idée qu'on suive son intuition dans les situations qu'on connaît bien.
Et vous pouvez partager, réécouter les choses vues de Christophe André sur l'appli France Inter. Dans quelques instants, on s'intéresse à ces ruminations qui nous pourrissent parfois la vie. En attendant, on écoute Joy Crooks, When You Were Mine.
In the summer of 16, was it love or nicotine that made us mellow on the 31st? It was penny paradise, just a pretty little lie.
gros gros coup de cœur personnel pour Joy Crooks, When You Were Mine.
Grand bien vous fasse, Ali Rebi. Sur France Inter.
10h54 et ce matin on se demande à quoi sert notre petite voix intérieure avec la complicité du mensuel Ça m'intéresse. Imaginons que nous entendions les petites voix intérieures des autres.
Bref, ce jour-là j'avais rendez-vous avec les autres au cinéma. Il faisait beau, alors j'ai coupé par le parc. J'étais déjà passé 117 fois exactement devant ce parc sans jamais y entrer. Je me suis demandé pourquoi.
Bref, ce qui m'a toujours énervé, c'est pas les gens qui jettent leur papier par terre, c'est les gens qui jettent leur papier par terre juste à côté de la poubelle. Je me suis toujours dit que si j'en attrapais un, je raterais pas la poubelle.
Dans ce soir. À un moment, on a arrêté de parler, j'ai eu envie de l'embrasser. Je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé.
Je me suis assis sur un banc pour l'attendre. À chaque fois que je m'assois dans un parc, je me demande où je me placerais si j'étais un sniper dans un jeu vidéo. Je scrute le décor, j'imagine les ennemis.
Dans le bureau de mon boss et je lui dis c'est fini. Je démissionne, je veux plus être un mec dans un bureau. Je veux me lancer dans l'humanitaire.
En plus, j'avais plus de batterie dans mon lecteur MP3. J'ai quand même mis mes écouteurs pour éviter les relous qui m'abordent dans la rue.
Et puis j'ai vu ce panneau, interdit de marcher sur la pelouse. À chaque fois que je vois un panneau, interdit de marcher sur la pelouse, je me demande comment le mec qui l'a posé a pas marché sur la pelouse.
Manger, jouer, manger, manger, jouer, 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 manger, manger.
Oh, une meuf.
Baiser, 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 baiser.
Extrait de Bref de Kian Kojandi. Alors dans un tout autre domaine, Christophe André, nous recevons beaucoup de questions sur les ruminations. Ruminer, c'est tourner et retourner dans son esprit, remâcher, ressasser. Pourquoi n'arrive-t-on pas à passer à autre chose? Les ruminations concernent souvent des pensées négatives. Pourquoi on n'arrive pas à tourner la page? Alors, et à faire cesser ces ruminations?
Ouais, c'est compliqué. Les ruminations, c'est vrai que ce sont des sortes de voix intérieures, mais à la fois on y adhère parce qu'elles concernent des préoccupations qu'on a véritablement, mais elles nous dérangent parce qu'on voudrait les interrompre. Effectivement, on se rend compte que ruminer, ça n'est pas réfléchir. Ruminer, c'est tourner en rond autour d'un problème. Elles sont dures à faire cesser parce que les ruminations, en général, sont déclenchées par du stress, de l'anxiété, par quelque chose qui nous fait souffrir. Et la souffrance polarise notre attention et engendre ces espèces de bugs comme ça dans notre fonctionnement cérébral. Donc souvent, ce qui est étonnant, c'est que les ruminations, elles cèdent beaucoup mieux au fait d'aller marcher, d'aller courir, d'un engagement dans une activité physique qu'à notre seul effort de volonté qui nous dit « arrête tout ça ».
Ou bien d'écrire Isabelle Sorrente.
Oui, ça marche très bien. On a les ruminations des personnages, c'est pas beau. Pas forcément mieux.
Dernière question de Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle. Question très utile.
Peut-être oui, pour Hélène Leuvenbruck. Alors, précisément, comment on peut travailler, développer cette voix intérieure lorsqu'évidemment, elle vient nous apporter des pensées positives? Est-ce qu'il faut les noter, celles qui nous assaillent de bon matin, sous la douche, en voiture, dans les bouchons, lire de la poésie, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Oui, tout à fait. Alors, la poésie, c'est vraiment une très bonne idée. On peut noter ses paroles, on peut tenir un carnet de paroles intérieures. Et donc, c'est ce que propose Stéphanie Smadja, qui mène un grand programme qu'elle appelle Monologuer, qui vise à pratiquer une endophasie thérapeutique, clinique. Et donc, elle mène des entretiens où les personnes parlent de leurs paroles intérieures. Elles essayent de travailler leurs paroles intérieures en écrivant, en tenant des carnets. Et puis donc, la lecture aussi, c'est très bénéfique aussi à développer cette parole intérieure. Et la relaxation, donc si on parle, donc je voulais revenir aussi sur cette idée de rumination avec Stéphanie Smadja. On a travaillé sur la rumination dans le cadre aussi de la thèse de Ladislas Nalborsic pour essayer de mieux comprendre ce phénomène ruminatif et comment passer d'une rumination négative ressassante à une parole intérieure plus bénéfique qui nous console plutôt que qui nous ressasse des idées négatives. Et donc ce qu'on avait fait avec Ladislas Nalborsic, c'était de pratiquer un protocole de relaxation orofaciale. Donc les participants entendaient la voix d'une sophrologue qui apportait de la relaxation dans les muscles du visage. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'en effet, les ruminations diminuaient chez les personnes chez qui on avait induit des ruminations. Donc on a ces possibilités de se faire du bien avec notre parole intérieure plutôt que se faire du mal. Et eh bien, il faut essayer.
Hélène Leuvenbruck, dernière question, réponse très brève. Au bureau avec notre réalisatrice Claire Destacan, on rit beaucoup parce que quand on est en train de commenter ce qu'on fait, ah ben tiens, je vais faire ceci, je vais faire cela, voilà cette voix intérieure qui se fait entendre dans le bureau. C'est normal ou pas de commenter ce que l'on fait à voix haute?
Oui, ou pas du tout? Oui, tout à fait, c'est normal. Donc on ça nous aide à se concentrer en fait de le dire à voix haute. Hein. Donc bon. on a des moments où notre monologue il devient plus intérieur mais bien extériorisé.
Bon, on est rassuré alors. Merci beaucoup beaucoup Hélène Leuvenbruck d'avoir participé à cette émission. Isabelle Sorrente, merci beaucoup. Votre dernier roman, c'est La femme et l'oiseau et c'est publié chez Lattès. On vous retrouve évidemment dans Par Jupiter. Merci Caroline Pénaud. L'article sur la voix intérieure est à lire dans le Saint-Intérieur. s'intéresse, actuellement en kiosque. Et merci au Ticket Tag du mardi, Christophe André et Marie-Laure Sunshine. Demain, on s'intéresse aux bienfaits du scoutisme avec notamment le comédien et humoriste Ada Abdelli.